Bonsoir. Nouvelle mise en place au sein de l'armée congolaise. Le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha est désormais le nouveau chef d'état-major général des FRDC. Il remplace le général d'armée Mbala Moussiense au terme d'une ordonnance présidentielle publiée hier lundi. Christian Chiwewe assumait jusqu'alors les fonctions des commandants de la garde républicaine. Dans la suite, des ordonnances de haut gradé de l'armée sont aussi nommées comme adjoint du chef d'état-major général. Le nouveau chef d'état-major devra relever plusieurs défis dans un contexte d'arrestation de certains hauts gradés de l'armée et de la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC où, en l'espace de 2 jours, une trentaine de civils ont trouvé la mort dans des attaques des groupes armés au Nord Kivu et en Ituri. Quelle lecture faire de ces nouvelles mises en place au sein des FRDC? Pourrait-elle avoir un impact dans le processus de rétablissement de la paix dans l'est du pays? Nous en parlons ce soir avec le professeur Nissé Mouendi, professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Il est aussi directeur du bureau centre d'études sur la paix et la sécurité. Professeur Nissé Mouendi, bonsoir.
Bonsoir.
Eliora Hensler, coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu. Bonsoir, madame Eliora.
Bonsoir.
Et le professeur Jacques Njoli qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est professeur de droit constitutionnel. Il est député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Comme je l'ai dit, il va nous rejoindre dans un tout petit moment à Kinshasa. Vous nous suivez sous la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha est désormais le nouveau chef d'état-major général des FRDC. Il remplace le général d'armée Mbala Moussiense au terme d'une ordonnance présidentielle publiée hier soir. Christian Chiwewe assumait jusqu'alors les fonctions des commandants de la garde républicaine et dans la suite des ordonnances, 2 hauts gradés de l'armée sont aussi nommés comme adjoint du chef d'état-major général. Billy Van Lutumba pour d'autres détails.
Ishale Ngoza Jacques occupe le poste de chargé des opérations militaires et Léon Richard Kasonga, commandant du service des communications et informations de FRDC, SIFA et porte-parole de l'armée, est actuellement chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et de la logistique. Le chef de l'État a procédé également à d'autres nominations au poste de sous-chef d'état-major général. Le général-major Ndaiwel est le nouveau commandant des renseignements en remplacement de Delphin Kayimbi. Le poste de chargé des opérations militaires est confié désormais au général-major Chico Jérôme, qui était jusque-là responsable des opérations à la garde républicaine. Les autres sous-chefs d'état-major généraux nommés sont le général-major Thomas Kisezo, chargé de l'administration, et le général-major Kipongo Bora, chargé de la logistique. Le commandant suprême a par ailleurs monté au grade de général-major Kabikiriza Ephraim et lui confie le commandement de la garde républicaine. Il a pour adjoint le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Mulumba Kabanangi, Désiré, chargé de l'administration et logistique, et le colonel Maloba assume maintenant les fonctions de chef d'état-major de la garde républicaine. Par d'autres ordonnances, le chef de l'État a élevé un certain nombre d'officiers supérieurs au grade de général de brigade.
Merci Billy Van Lutumba pour ces détails. Professeur Nissé Mouendi, vous êtes professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Vous êtes aussi directeur du bureau centre d'études sur la paix et la sécurité. Quelle lecture vous faites de ces nouvelles mises en place au sein des FRDC?
Bonsoir Madame Kérine Kouté et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi, spécialement ceux vivant à l'est de la RDC. Alors, pour moi, cette nomination s'inscrit dans le long cheminement, le long chemin pour le président actuel de se sévrer, d'une armée qui était dominée par des généraux dont il n'avait pas le contrôle au début et dont il a commencé à prendre le contrôle au fur et à mesure qu'il s'installait et qu'il avait à gérer les grands dossiers, notamment celui de la guerre à l'est de la RDC. Et je pourrais dire ici que ces nominations arrivent à point nommé. Il était plus que temps de renouveler l'équipe de commandement des FARDC, parce que si vous regardez un peu le baromètre sécuritaire du Kivu, et je salue ici la présence d'Eliora qui est la coordinatrice du KSC, les massacres n'ont fait que s'accroître depuis le début. Et en plus, leur zone, la zone impactée par ces massacres n'a fait que s'étendre géographiquement. Elle est passée du petit triangle Beni-Ringeti-Kassindi jusqu'à s'étendre à toute la province une bonne partie de la province de l'Ituri, tout le territoire d'Irumu, le territoire de Mambasa, et même la ville de Butembo. Donc vous avez appris qu'il y a eu aussi une opération EDF à Butembo lors de l'évasion de la prison de Kakwangura tout récemment. Donc, je dirais ici qu'il était plus que temps de renouveler les équipes, l'équipe de commandement notamment, mais ce n'est pas tout, ça ne suffit pas évidemment de renouveler le commandement des FARDC. Il faut encore approfondir la réforme et toucher aux structures de commandement, dans laquelle structure on retrouve un certain chevauchement entre les zones de défense, l'agent militaire, il y a des commandants en zone de défense, commandants agents militaires, commandants secteurs opérationnels, il y a des commandants brigades et des commandants régiments. Donc tout cela alourdit les commandements pour les soldats lambda qui est sur terrain. Je pourrais dire même que quelque part cela étourdit certains soldats qui sont sur terrain. Et donc il faut toucher aussi aux structures de commandement. Il faut toucher aussi aux moyens de guerre, renforcer les moyens de guerre. Donc, ça inclut les armes de guerre, la logistique, la motivation des FARDC. La réforme doit s'étendre aussi à une réelle volonté de guerre. Parce que si on est attaqué par des petits groupes armés comme le 23, comme des petits groupes Maïmaï qui se forment et que le gouvernement met du temps à organiser sa défense, ça signifie quelque part qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à se battre, il préfère des solutions négociées. Même lorsque la population est très motivée, comme on l'a vu pour le cas de Bunagana, toute la population était motivée et était prête à soutenir les FARDC. Mais ici encore, c'est le découragement, la démobilisation n'est pas venue de la population, mais plutôt du sommet de l'État. Et je pense qu'on peut étendre les propositions à l'infini.
Professeur Nissé Mouhedi, est-ce qu'on peut dire que ces nouvelles mises en place au sein de l'armée, c'est dans le souci de pouvoir réformer les FARDC, et surtout que ça intervient au moment où la loi de programmation militaire a été élaborée?
Ah oui, alors, sauf un mot que vous avez utilisé. Donc, pour moi, c'est pas une grande réforme, c'est une opération normale. Il faut renouveler les équipes lorsqu'elles sont fatiguées. Et je vais quand même noter que les noms qui sont cités, les noms qui apparaissent, c'est des noms des gens, des commandants qui connaissent bien, des officiers militaires qui connaissent bien le terrain. Nduru Italigonza a été commandant des opérations contre les EDF à Beni notamment. Et le général Chico Tambwe, il a été aussi dans la zone, donc il connaît très bien aussi la région. Donc j'espère que il va apporter une nouvelle énergie au chef de l'État. Chico notamment est celui-là même dont le nom apparaît sur un accord signé avec le groupe Mai Mai qui voulait aider les FARDC à combattre les EDF et qui sont rassemblés depuis 2 ans et demi, 3 ans presque, entre Butembo et Beni. C'est des Mai Mai pro-FARDC, pro-gouvernementaux, je dirais ainsi. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise le terrain, qui connaît bien le terrain, et donc je pense lui, son expérience et celle de général Nduru Italigonza peuvent peut-être apporter un nouveau souffle dans la question dans les opérations contre les EDF ainsi que dans les autres opérations militaires menées contre les groupes armés dans le Nord Kivu, notamment, parce que c'est la zone que les deux maîtrisent mieux.
Plusieurs défis attendent quand même le nouveau chef d'état-major. Nous sommes dans un contexte où il y a ces derniers temps beaucoup d'arrestations de certains hauts gradés de l'armée et même la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC. En l'espace de 2 jours, par exemple, il y a eu une trentaine de morts dans des attaques des groupes armés au Nord Kivu et en Ituri. Pensez-vous, oui, professeur, que ce défi sera relevé par le nouveau chef d'état-major?
Oui, c'est évident. Donc, il devra faire face à ce défi. Et il devra donc s'inscrire dans ce contexte où certains de ses collègues sont quand même interpellés pour trahison ou pour connivence avec l'ennemi. Donc je pense que le nouveau commandement va essayer de bien tirer profit de ce contexte qui lui est somme toute favorable. Donc s'il y a des brebis galeuses au sein de l'armée et que ces brebis commencent à être extirpées de l'armée et que vous prenez vos fonctions dans ce contexte, je pense que la voie est très bonne, très ouverte pour vous pour bien agir quoi. Et renforcer la confiance que le chef de l'État vient de placer en ce nouveau commandement.
Eliora Hensler, vous êtes coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu. Comment vous analysez ces nominations au sein de l'armée congolaise?
Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'attention. Bonjour à tous les auditeurs. Moi, je rejoins le professeur Nissé dans son analyse. Je pense que le fait de parler d'un processus de sevrage de la part du président, qui d'ailleurs n'a pas commencé aujourd'hui, évidemment aujourd'hui, dans le contexte des accusations et des arrestations de plusieurs officiers, on a tendance à penser que c'est un remaniement, mais le processus du général Tshiwewe, par exemple, il semble avoir été lancé depuis qu'il a été élevé au grade de lieutenant-général. Et on est dans une période électorale, on est dans une période où il y a beaucoup de revendications populaires contre l'insécurité, contre l'inaction de la MONUSCO, l'état de siège, la menace des M23. Et à ce moment-là, la décision du chef d'État de remanier l'armée, de mettre en sa tête des personnes qui peuvent lui être loyales et qui marquent aussi une césure entre l'ancien régime kabyliste et le nouveau, qui sont aussi dans une certaine mesure extérieures aux dynamiques d'appartenance et de loyauté de ex-Kadogo ou ex phase, donc qui représente un peu cette nouvelle génération, ça me paraît pas très surprenant comme décision. Je pense que, comme ça a été mentionné, ce remaniement, ça marque un pas, et ça marque un pas symbolique et pragmatique, mais il faut qu'on se pose également les questions de, est-ce que, en lui-même, ça permet de mettre fin à la crise de confiance entre militaires et leurs officiers sur le terrain? Est-ce que il y aura un changement des conditions de vie de militaires sur le terrain? Est-ce qu'il y aura un changement de la manière dont les opérations seront faites? Est-ce qu'il y aura un renforcement de capacités? Je pense que c'est toutes ces questions-là auxquelles on fait face, au-delà de juste la décision de remaniement.
Alors, il y aura un clair, selon certains observateurs, ces mises à l'écart interviennent dans un contexte de rapprochement entre Kinshasa et Washington qui ferait pression pour obtenir le départ de tous les généraux sous sanctions européennes ou américaines. Et Christian Tshiwewe n'aurait pas mauvaise réputation. Raison pour laquelle il a été choisi par le chef de l'État pour commander l'armée. Est-ce que vous avez aussi cette vision de la chose?
Bon, je pense que c'est sûr que, par exemple, si on regarde la nouvelle loi de programmation qui a été mentionnée, c'est une loi qui compte sur un financement de bailleurs, ce qui rend la chose incertaine et ce qui pourrait avancer l'hypothèse que oui, il y aurait ce besoin d'avoir l'appui, notamment de Washington ou d'autres pays qui, eux, auraient des préférences sur les personnes à sélectionner. Je pense que c'est le choix de Tshiwewe et pas monocausal. C'est pas, à mon avis, dans ma lecture, c'est pas uniquement parce que Washington aurait forcé la main dessus, mais c'est peut-être parce que, comme vous dites, c'est un candidat qui peut être vu comme moins problématique. Il y a aussi d'autres lectures de la part des généraux qui disent que les personnes qui ont travaillé avec lui dans le cadre de la garde républicaine ont apprécié le travail avec lui et le lisent comme un général positif, et qui, encore une fois, fait césure avec les liens que certaines autres personnes ont, comme vous l'avez dit, eu avec les groupes armés qui sont placés sous sanctions. Donc oui, je pense que ça peut être un mouvement tactique, mais c'est un mouvement tactique aussi pour la présidence de rétablir la confiance entre la présidence du pays et l'armée.
Professeur Jacques Njoli, vous êtes professeur de droit constitutionnel et député national, vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Votre commentaire sur ces nouvelles mises en place au sein de l'armée.
Merci beaucoup, madame. Je salue tous les auditeurs et les autres co-débatteurs. Effectivement, au niveau du Parlement, mais en tant que représentant du peuple, nous avons reçu avec beaucoup de responsabilité, je dirais pas de joie, cette restructuration, du moins cette nouvelle nomination, parce que lorsque au mois de de mars 2022, nous avons fait l'évaluation à mi-parcours de la mise en place de l'état de siège et tout autour de nos descentes sur le terrain dans le cadre des évaluations conjointes avec le gouvernement. Au-delà de tous les autres problèmes, la question primordiale posée par les députés, c'était le changement dans la chaîne de commandement du sommet à la base. Et là, le chef de l'État vient de répondre à une préoccupation principale, celle de changer le commandement stratégique des forces armées à partir du chef d'état-major général, mais aussi à partir et de ses adjoints, mais aussi certains commandements que je dirais tactiques et opératiques, parce que nous avons donc changé les renseignements, les sous-chefs d'opération, renseignements et niveau de lui-même du président et même au niveau de la maison militaire. Donc ce sont des changements profonds. Le chef de l'État a eu le temps de réfléchir, mais comme nous croyons, c'est un mouvement qui doit pas s'arrêter au niveau stratégique, il faut que ça aille jusqu'au niveau opératique, c'est-à-dire des unités qui sont engagées, d'autres commandants ont fait plus de 5 voire 10 ans sur le terrain, ils ont donc besoin d'être relevés par un leadership nouveau, parce que parmi les facteurs, n'est-ce pas, de la victoire, il y a la qualité du commandement et ça posait effectivement un problème. Il ne s'agit pas d'un élément unique, donc il faudra donc travailler sur les autres paramètres. Nous avons la situation sur le terrain qui est préoccupante. Il y a un des collègues qui a parlé d'extension du champ d'affrontement. Les ADF qui étaient dans le Nord Kivu ont été poussés après l'opération Souge avec les Ugandais vers l'Ituri et à l'Ituri. Au niveau des Mambasa, des Rumi, qui, ces deux territoires sont pratiquement en charge, en est sécurisé par les ADF. Au niveau du Grand Nord, il y a des problèmes dans le Rutshuru, Lubero, un peu, on a parlé de Butembo, et mais il y a surtout cette plaie de l'agression rwandaise sous couverture de M23. Ça demande une réponse robuste. Donc, le premier pas que nous avons tous attendu est là. Maintenant, il faut faire une conjonction des facteurs. Nous avons la loi de programmation, mais il y a aussi la définition de la politique de défense. Mais il faut continuer, il faut notamment que rapidement le programme DDRC soit réappliqué. Mais au niveau de la réorganisation totale de la réforme de l'armée, il faut des efforts dans la formation, dans l'entraînement, dans l'équipement, dans le coordonnement de motivation des troupes. Ce que le peuple congolais attend, nos frères de l'Est, c'est la paix, la sécurité, et on ne peut pas y arriver sans un outil militaire crédible et responsable.
Professeur Jacques Ndjoli, vous saluez le changement dans la chaîne des commandements du sommet à la base, mais est-ce que cela pourrait mettre fin à la crise de confiance entre militaires, comme l'a soulevé Eliora Enzler, qui est coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu?
De petites tensions, je ne sais pas. Il y a, par contre, c'est que l'un de collègues a soulevé, hein, il faudra résoudre la question de la cohérence de la chaîne. Nous avons la chaîne de mise en condition qui est là et la chaîne de mise en œuvre. Ces deux chaînes peuvent, n'est-ce pas, faire trouver les militaires. Il faut aussi savoir que notre armée a une forme qu'on dit mexicaine avec énormément de généraux. Donc, d'autres qui sont nommés, il faudra qu'on assainisse l'ensemble du personnel. Donc, la rationalisation, la gestion des ressources humaines. Il y a des unités qui sont déployées. Il y a des effectifs qu'il faudra rétablir. Il y a des bataillons, voire des brigades et des régiments. Il faut récompléter. C'est un grand travail. Il faut avouer que pendant plusieurs années, on a laissé cette situation s'empirer de sorte que on est arrivé à cette évolution. On a 140 groupes armés qui opèrent dans cette zone de l'Est et des groupes étrangers, notamment la DEF Nalu, qui, loin d'avoir perdu de sa vigueur, ce groupe a été repoussé de la frontière ougandaise pour entrer dans le territoire. Les Ougandais ont appelé cette opération Souja, mais nous devions aussi appeler cette opération avec un nom pour que ceux qui sont repoussés loin des frontières ne viennent pas perturber, comme ils le font maintenant en petits groupes la situation de nos populations avec des tueries violentes, des viols. Il y a un grand nombre de déplacés, plus ou moins 5 millions. Donc la situation est préoccupante, mais je crois qu'elle n'est pas désespérée. Donc il ne faut pas croire que la réponse à la crise à l'Est est strictement militaire. Oui, la centralité de l'effort, c'est un outil militaire conséquent, compétent et robuste. Mais à côté de toute cette question militaire, il y a la restauration de l'autorité de l'État, la confiance entre les civils et les militaires, mais aussi au sein de l'autorité civile coutumière. Mais il y a aussi les problèmes de DDRC qu'il faudra résoudre, notamment en donnant une réponse claire aux groupes qui veulent, n'est-ce pas, quitter les armes. Et il y en a beaucoup, donc il faut que l'armée apporte sa solution, la police sa solution, mais aussi le programme DDRC, mais aussi l'administration, les réponses aux préoccupations. Il faut un outil militaire crédible, fort, sinon ben, nous assistons à cette situation où on fait 2-3 mois sans des vraies opérations d'envergure. Et à cela, les hommes, les commandements, il faut l'équipement nécessaire. Et pour ça, la motivation des hommes, leur équipement, comme je l'ai dit, oui. Et nous croyons que nous pouvons y arriver.
Professeur Nissé Mouendi, alors en parlant des motivations des hommes, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Mbandaka, Edmond Bokolo, qui dit ceci, nous saluons les nouvelles mises en place, mais le président devrait aussi relever le niveau du traitement des militaires. La vie sociale des militaires congolais est un élément essentiel qui prime au-delà des nominations faites au sein des forces armées. Et maître Francis Vissot, depuis Goma au Nord Kivu, pense que ces nominations auront à l'impact sur une nouvelle politique interne au sein des FARDC qu'il faut mettre en place, mais aussi il faut tabler sur l'amélioration du social des militaires pour leur efficacité et bon moral sur différents fronts de guerre.
Oui, je pense que ces auditeurs ont raison. Ils ont parfaitement raison. Il y a eu même un moment où les soldats congolais se contentaient de 17 dollars, ça c'est de les années 2000. Et c'était 17 dollars plus 50 qui étaient payés par des bailleurs extérieurs et qui, à un moment donné, face aux chiffres qui étaient discordants entre les chiffres officiels et les chiffres marqués sur terrain, ont même été obligés d'organiser un recensement biométrique en fin 2008, début 2009. Et c'était le premier recensement biométrique d'une armée en Afrique. Ils ont constaté, par exemple, que là où le gouvernement présentait des chiffres de 150 ou 250 militaires, ils ont trouvé à peine 129 000. Donc, pour dire un peu que le gouvernement congolais, il a pris du temps pour améliorer le social de ses propres militaires. Et pendant des décennies, au moins la décennie 2000, il a compté quasi exclusivement, sur l'appui des partenaires extérieurs qui étaient membres du CIAT, un comité qui avait été mis en place après les négociations de San City pour appuyer justement la relève de la RDC. Donc, il est plus que temps que le gouvernement congolais prenne la responsabilité ou considère la motivation de ses propres soldats comme sa priorité. Et pour cela, il ne faut compter sur personne d'autre. Il faut compter sur le budget national. Donc l'instrument qui devrait indiquer comment on répartit les revenus nationaux entre les services clés, les priorités du gouvernement, ça doit être le budget. Quelle est la part du budget allouée à la prise en charge des militaires sur terrain par rapport aux autres rubriques, les montants qui sont dépensés, par exemple, pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour la présidence, pour les ministères. Donc, par rapport aux autres secteurs publics, on sent que les militaires congolais a quand même été négligé. À part, évidemment, quelques officiers qui, lorsqu'ils sont en opération, peuvent bénéficier de primes de commandement, de primes de mission et gérer la ration de leurs soldats. Donc, c'est vraiment un élément clé. On ne peut pas compter sur un militaire qui n'a pas mangé depuis 2 jours. On ne peut pas compter sur une armée constituée de soldats qui, pour survivre compte sur des boîtes de conserve leur données par la MONUSCO, maintenant qu'elle ne sera plus très active en RDC. Donc, ça a été dit par la représentante de la MONUSCO à Kinshasa. Et donc, c'est très important et c'est urgent pour le gouvernement de renforcer la motivation des soldats FARDC pour espérer un quelconque résultat. Parmi d'autres moyens, évidemment, que le prof Joly a bien évoqué ici. Je suis très d'accord avec la préoccupation de ces auditeurs qui souhaitent vraiment que la motivation de soldats devienne une priorité.
Eliora Hensler, il y a eu ces nominations. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait avoir un impact dans le processus de rétablissement de la paix dans l'est de la RDC?
Merci beaucoup pour la question. Je rejoins ce que viennent de dire les intervenants et les auditeurs également, c'est-à-dire que pour que ces nominations aient un impact sur le rétablissement de la paix à l'Est, il faut que ça passe par la motivation, par la prise en charge et par la meilleure organisation autour des militaires qui sont eux qui sont sur le terrain et qui sont sur ces opérations. Sans ça, je pense que les nominations en elles-mêmes ne suffiront pas. Elles peuvent être un échelon ou une étape dans ce processus s'il y a une volonté militaire et stratégique de faire une priorité du rétablissement de la paix à l'Est. Je pense que en termes du choix des personnes qui ont été nominées, il faut se poser la question si on peut vraiment dire qu'ils ont été promus pour leur prouesse militaire. J'ai entendu le professeur parler tout à l'heure des opérations dans lesquelles ils ont participé, et bien que je le rejoigne sur le fait qu'ils ont une expérience sur le terrain, je pense qu'on puisse pas dire que ces opérations indiquent une maîtrise du terrain ou étaient un succès dans le sens qu'elles ont réussi à ramener la paix à l'Est. Donc c'est un processus qui implique plusieurs acteurs, qui implique les acteurs politiques et militaires, vu que les causes de l'insécurité à l'Est ne sont pas purement militaires. Donc ça demandera de la mise en place d'une stratégie qui permet une meilleure prise en charge des soldats. Ça permettra sûrement un nouveau souffle, oui, les nouvelles personnes qui ont été sélectionnées, mais je pense que la grande question, ce sera, est-ce que ce sera suffisant? Quelque part, potentiellement, on peut supposer que le fait que parmi la nouvelle équipe, les personnes n'aient pas un passé direct dans les groupes armés peut jouer sur la relation, comme on disait tout à l'heure, changer leur rôle dans le processus de Nairobi, le programme de désarmement. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu militairement d'annonce encore d'un changement de stratégie militaire. Donc je pense que ça reste à voir quel sera le rôle des personnes à jouer. Je pense qu'un autre élément dont il faut tenir compte, si on se pose la question de est-ce que ça va réussir à ramener la paix dans l'Est, c'est de savoir quel sera le rôle des personnes qui ont été écartées. Donc je pense que ça joue sur autant les personnes parmi les FARDC qui en font plus partie, mais aussi toutes les autres personnes et toutes les autres parties prenantes dans le processus de rétablissement de paix à l'Est. Est-ce qu'ils vont réussir à établir une collaboration positive avec l'armée, et est-ce qu'on aura des opérations concertées contre les ADF, contre les M23, contre tous les groupes armés qui n'impliquent pas qu'une stratégie purement militaire.
Je vous garde en ligne, Eliora Hensler, le temps pour nous de prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa. Les auditeurs sont nombreux à appeler, hein. Ils veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. Donc on va prendre pour vous, Eliora, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Peter Mabouji, je vous appelle à partir de la ville province de Kinshasa. Ces nouvelles mises en place au sein de nos FARDC sont salutaires bien que tard. Cependant, cette mesure doit être accompagnée des actions concrètes en termes d'organisation interne, de la motivation, de la conscientisation et de l'esprit patriotique dans le respect de leur serment de notre force armée en vue d'arriver à un succès basé sur la stabilisation et le maintien de la paix dans la partie est de notre pays, tant souhaité par les Congolais et Congolais qui sont toujours attachés à leur FARDC. Je félicite les nominés et leur souhaite plein succès dans leur mission noble qui est la leur, avec tout notre soutien.
Cet auditeur vous rejoint un tout petit peu dans votre analyse tout à l'heure concernant l'organisation interne, la motivation. Il salue les mises en place au sein des FARDC, mais il pense que c'est un peu tard. Le chef de l'État aurait dû le faire un peu plus tôt.
Bon,
Enfin, ma lecture, c'est comme ça que le professeur a ouvert ce débat, n'est-ce pas? C'était de dire, on est en train de voir une étape d'un processus qui n'a pas commencé sa mise en place hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu ce remaniement, on l'attendait depuis plusieurs mois, ça avait été annoncé, on savait que ça devait arriver, c'est arrivé aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs de considération qui ont dû rentrer en compte, c'est-à-dire la confiance des personnes, les mettre en position d'être capables de le faire. Encore une fois, la loi de programmation qui a été votée également. Si on peut pas faire des contrefactuels, n'est-ce pas, de dire que, enfin, sûrement ça aurait été bien de le faire le plus tôt possible, mais maintenant qu'on l'a aujourd'hui, je pense que la question c'est comment aller de l'avant pour que ce remaniement du leadership des FRDC ait vraiment comme conséquence une stabilisation de la situation à l'Est et quels sont les facteurs clés auxquels on devra prêter attention.
Professeur Jacques Joly, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Dinguila dans la province du Bazouélé.
Bienvenue Mbali. Dans la cité de Dinguila, dans la province du Bas-Zuélé, nous pensons que ces changements ont leur place au vu de ce qui se passe dans notre pays et surtout au sein de notre armée qui est devenue une sorte de passoire. Mais ce que nous demanderons à ces nouvelles autorités militaires, c'est que le patriotisme et l'amour de la patrie occupent la première place dans leur cœur, dans le cœur de chacun d'eux, car notre armée est devenue ce qu'elle est aujourd'hui suite à la corruption qui a gangréné ceux qui sont censés assumer la sécurité et défendre l'intégrité du territoire national. Si ces terres sont désormais éliminées ou éradiquées dans leur intellect, puis remplacées par le patriotisme, tout ira mieux, car il n'y aura plus de trahison au sein de l'armée pouvant permettre à l'ennemi d'attirer profit.
Brève réaction, professeur Jacques Joly.
Je salue notre frère de Dinguila dans la province du Bas-Ouélé. Et c'est vrai ce qu'il dit sur l'impératif du patriotisme, l'impératif de ne pas être corrompu. Lorsqu'on s'engage dans l'armée, c'est pour défendre la nation, défendre la population jusqu'au sacrifice suprême. Et dans cette mission sacrificielle, les militaires ont besoin de l'appui de sa population, c'est un élément important, d'avoir le moyen pour atteindre ses objectifs. Et ce sont deux éléments qui sont importants dans cette affaire. Alors, très souvent, nous croyons que le mal de la société vient de l'armée. C'est peut-être vrai, mais il faudra dire que l'armée est le reflet de ce que nous sommes. Si on a la situation en Ituri, c'est une situation que je dirais catastrophique, mais il est important, et heureusement, dans la stratégie de gestion de cette crise, il y a un aspect important qui doit être mis en place, à savoir la restauration de la confiance intercommunautaire. Ça, c'est un élément énorme au niveau de l'Ituri, où la plupart des groupes armés sont des émanations des ethnies, des groupes et des autres. Alors, deuxième élément, c'est les facteurs économiques. Si vous voyez, tous ces groupes armés sont des groupes armés qui travaillent ou qui s'arment grâce à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Là aussi, il y a l'impératif d'implication des populations locales, des élites locales pour éviter d'entrer dans ces jeux d'exploitation illégale et des commerces avec les pays faire entrer l'arme. Mais il y a aussi l'implication de l'État dans sa gouvernance globale et dans sa gouvernance sécuritaire pour restaurer les paramètres là où ils doivent être. Donc, c'est une interpellation collective, et que dans cette interpellation collective, au cœur, il y a l'outil militaire. C'est pourquoi, au-delà de la nomination, il faut revenir à l'essentiel. Il y a bien sûr, moi je couvre deux options. La première option, c'est la réponse urgente qu'il faut donner, avec une structure requinquée et requalifiée pour restaurer rapidement l'intégrité du territoire en boutant dehors d'une manière ou d'une autre les M23, en maîtrisant très rapidement les à Dief, qui était quand même maîtrisé, mais lorsque on a redéployé les hommes qui étaient en Ituri pour aller vers Bunagana, on a pu voir que les ADF ont récupéré un certain nombre de leurs bastions et ils ont commencé à poser des bombes. Donc, il y a un travail à faire, mais il y a aussi un travail à faire au sein de l'armée elle-même, parce qu'aujourd'hui, nous avons la loi de programmation, mais comme l'on dit, nous avons énormément de problèmes de gestion des effectifs. Le chef de l'État l'a dit, on lui disait qu'il y avait ici 21 000 hommes, mais sur le terrain, on n'arrive pas à mettre 1 000 personnes parce que on n'a pas récomplété les effectifs, il y a des veuves, il y a des déserteurs, il y a des morts, et il faudra améliorer le management général de l'armée. Donc la question, au-delà de la réponse urgente qu'il faut donner, une réponse robuste pour casser ce groupe d'armée, il y a l'impératif, avec le nouveau commandement, avec le ministère de la Défense, de continuer le plan de réforme de notre secteur de sécurité, sur le format de notre armée, sur la maîtrise des effectifs, sur le moyen donné, sur le casernement des hommes, sur les motivations, sont des impératifs.
Merci,
un État ne mérite le nom d'État que si il peut, n'est-ce pas, assurer l'intégrité de ses frontières et la protection de sa population.
Professeur Nissé Mohendi, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient du Kasaï central.
C'est Benjamin Tcha, moi je vous appelle depuis la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Les nouvelles mises en place au sein de l'armée congolaise viennent une fois de plus réaffirmer la volonté du président de la République pour éradiquer définitivement l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais la grande question reste posée. Est-ce que ces nouvelles autorités seront-elles capables de pouvoir éradiquer définitivement les groupes armés qui pullulent dans la partie est du pays? Je pense que cette question sera répondue quand nous aurons constaté les résultats du travail qui sera abattu sur terrain par ces nouvelles autorités congolaises. Et en même temps, nous déplorons encore le déploiement des forces régionales dans la partie est du pays, quand bien même nous aurions appris que le moins gradé dans cette force régionale va toucher 1 500 $ américains, alors que les soldats congolais profitent dans la misère du jour et jour.
Professeur Nissé, commentaire.
Alors, l'auditeur a raison, l'auditeur de Kananga a raison de s'inquiéter, de se poser la question de se demander si les nouveaux commandants seront capables d'éradiquer les groupes armés et la ligne des facteurs qui pourraient améliorer leur efficacité. Je vais dire ici que leur efficacité ne dépendra pas de leur seule volonté. Donc, elle dépend aussi de la volonté du commandant suprême. Bon, si on sent dans ces nouvelles mesures une volonté de réussir, alors on peut présumer qu'il y a désormais de la volonté. Mais cette volonté doit évidemment aller au-delà du remplacement de quelques commandants ou de l'état-major. Parce que parmi les groupes armés qui sont sur terrain et que l'auditeur vient d'évoquer, il y en a qui exploitent des minerais et qui les vendent, qui bénéficient de la complicité de certains FARDC pour les vendre. Il y en a aussi même qui ont été... il y a des groupes qui ont été appuyés activement par les FARDC. Les Nouma NDC, hein, le NDC rénové par exemple. Et si on remonte dans le temps, on va encore trouver que, même par le passé, les tout premiers groupes Maïmaï qui se sont déployés dans le Kivu, ils l'étaient à la demande du gouvernement parce que c'était des groupes formés par un ancien officier FARDC, FAC comme ça s'appelait, que Laurent Désiré avait déployé pour déstabiliser, donc recruter des Maïmaï et les faire former par l'FDLR pour déstabiliser les grandes rébellions RCD, KML, LNC à l'époque. Et malheureusement, quelqu'un comme celui-là n'a jamais pu être démobilisé jusqu'à présent. Il continue d'entraîner d'autres seigneurs de guerre. La plupart des seigneurs de guerre aujourd'hui sont des gens qui avaient été formés par lui et qui par la suite ont subi des processus de désarmement, de mobilisation. Et ils en sont encore revenus un peu déçus et sont rentrés dans les groupes d'armées. Et ils en sont devenus aujourd'hui des commandants. Donc il y a une grande politique à mener vraiment sur terrain pour que les nouveaux nominés soient efficaces sur terrain.
Alors justement, professeur, ça sera peut-être la dernière question parce que nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut pour stabiliser, en plus de ces nominations, que faut-il pour vraiment réussir à stabiliser l'Est de la RDC?
Le gouvernement devrait non seulement poursuivre la relève des commandants et la réforme de l'armée, mais investir beaucoup dans l'amélioration de la lisibilité et la crédibilité de sa stratégie. Parce que pour l'instant, l'État congolais réagit à des attaques lorsqu'il est attaqué. L'État congolais, on ne voit pas ce qu'il déploie comme stratégie dans la région. On peut voir, par exemple, que certains de ses voisins ont une stratégie claire qui combine diplomatie et déploiement militaire. Même si c'est pour des opérations de maintien de la paix. Le Rwanda, on voit comment il se déploie en Centrafrique, comment il se déploie au Congo-Brazza. Et le gouvernement congolais devrait se demander si c'est pas pour l'encercler. Et lui, par contre, on ne voit pas ce qu'il déploie, ce qu'il projette comme stratégie dans la région pour se sécuriser. Et on ne voit pas aussi à l'interne ce qu'il déploie comme stratégie pour éradiquer justement les groupes armés. Parce que par endroits, on constate une certaine tolérance des groupes armés. Parce que le gouvernement doit trier parmi ces groupes armés lequel est le plus dangereux qu'il faut combattre et lequel peut être toléré parce qu'à un moment donné, il peut aider les FARDC. Donc tout cela ne rend pas très crédible la stratégie militaire des FARDC. Donc il faudrait que le gouvernement investisse beaucoup dans la lisibilité de sa stratégie pour aider aussi ses officiers à être efficaces sur terrain.
Merci, professeur Nissé Mouhendi. Eliora Hensler, coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu. Que devrait faire le gouvernement congolais pour éradiquer définitivement tous ces groupes armés qui pullulent dans la partie orientale de la RDC?
C'est une question très large. Un exemple, c'est de vraiment se focaliser sur les causes profondes. On a entendu tout à l'heure que, par exemple, ces groupes armés utilisent les minerais et les ressources naturelles pour subvenir à leurs opérations, mais je pense pas qu'on puisse dire dans tous les cas que c'est leur seule raison d'exister. Il y a aussi des questions identitaires, il y a des questions foncières, il y a des questions politiques et coutumières qui surviennent. Donc je pense que ce qu'on a vu comme succès, c'était des processus de paix qui avaient l'appui politique local, était basé sur un dialogue avec différentes personnes qui avaient aussi les financements pour avoir une vraie prise en charge des ex-combattants et pas un cantonnement dans des camps de démobilisés où les personnes étaient dans des conditions de vie déplorables et étaient ensuite amenées à reprendre les armes assez rapidement avec. Donc je pense que peut-être une réponse simple à une question compliquée, c'est d'essayer de tirer les leçons des processus de désarmement qui ont connu des succès relatifs, des zones où on observe une baisse de violence ces derniers mois, on en a, ces derniers mois, ces dernières années, et d'essayer de reproduire ces exemples en prenant en compte les dynamiques particulières de chaque région et pas de penser qu'une solution va marcher pour tout l'Est de la RDC.
Merci Eliora Hensler, professeur Jacqueline Jolie. Ça sera aussi votre conclusion vu l'expérience des personnes qui ont été nommées à la tête des FARDC. Peut-on se dire que d'ici une année, on ne va plus parler des groupes armés dans la partie orientale de la RDC?
Mais madame, je crois que ça doit être un état final recherché, c'est-à-dire restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble de la bande orientale de notre pays, qui est devenu un champ de tir libre de tous les groupes armés, même de puissances étrangères, et leurs groupes armés qui se sont réfugiés chez nous, que ce soit la DEFNAL ou de l'Ouganda, ou que ce soit l'M23 et les FTLR dans le Nord Kivu, et même dans le Sud Kivu, avec le groupe Red Ntabara et autres du Burundi. Donc il est important que nous puissions prendre nos responsabilités et nous considérons les premières mesures du chef de l'État comme les signaux forts de ce processus que l'État doit se donner comme centralité de son action.
Merci professeur Jacques Njuli. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Alain Goy est à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.